Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Prenez place. Bienvenue à cette conférence, dernière conférence de l'année 2023 de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, pour fêter la fin de l'année, si j'ose dire, nous avons deux orateurs au lieu d'un. Nous allons en particulier rendre hommage à Serge Kouchmi, notre collègue qui nous a quittés il y a quelques mois et qui a beaucoup travaillé sur le soleil et les éclipses de soleil. Donc avant de vous présenter le programme de ce soir, je vais juste rapidement vous donner les titres des trois conférences à venir. Donc le 9 janvier, ce sera Amandine Lebrun sur les amas de galaxies comme sondes cosmologiques et laboratoire astrophysique. Elle est spécialiste de simulation numérique et elle travaille au LUT, à l'Observatoire de Paris-Meudon. Ensuite, le 6 février, nous aurons Vanessa Hill de l'Observatoire de la Côte d'Azur qui parlera de l'astrophysique extragalactique avec Gaïa. Je n'ai pas le titre exact. Et ensuite, le 5 mars, nous aurons Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018, qui nous parlera de laser, mais là, je n'ai pas de titre officiel. Voilà. Alors, non, je suis occupée, madame. Ce soir, nous allons écouter des histoires d'éclipses et de couronnes solaires autour de Serge Kouchmi. Je salue plus particulièrement la fille de Serge Kouchmi qui doit nous suivre sur YouTube, Nathalie Donatien Kouchmi. Je la remercie d'être avec nous. Elle n'a pas pu venir ici dans cette salle, mais elle est avec nous ce soir. Et donc ce soir, nous avons deux orateurs, Pierre Léna et Jean-Claude Vial. Pierre Léna est professeur émérite à l'Observatoire de Paris et à l'Université Paris-Cité. Il a participé pendant 30 ans avec Georges Charpak et d'autres personnes à la main à la pâte, donc il s'est énormément impliqué dans l'enseignement. Il a d'ailleurs été mon professeur quand j'étais en DEA, ce qui a précédé le Master 2. Il a aussi beaucoup travaillé sur l'optique active et l'optique adaptative qui pour le VLT, donc depuis les années 80 ou 90, donc bien, c'était vraiment un des précurseurs de cette technique qui permet maintenant d'avoir des images d'une qualité absolument ahurissante avec des télescopes au sol. Il a aussi écrit des livres et il propose de vous les dédicacer à la fin de la séance, si vous le souhaitez. Donc un livre sur les éclipses de soleil avec Serge Kouchmi, donc ils sont deux auteurs, et puis un livre beaucoup plus récent sur l'histoire du flou, où il parle justement d'optique adaptative et qui est, il me l'a dit, écrit pour les jeunes, et on est très content de voir qu'il y a plein de jeunes dans la salle ce soir. C'est toujours très agréable d'avoir cette impression-là. Voilà. Ensuite, en deuxième partie, nous écouterons Jean-Claude Vial, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Il a été responsable pendant 20 ans de l'équipe solaire et stellaire à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Il a aussi été responsable d'instruments spatiaux, en particulier OSO-8, SO, Solar Orbiter, qui vole encore actuellement. Et il a surtout travaillé sur les protubérances solaires. Voilà, donc nous allons écouter ce soir ces deux orateurs et en même temps rendre hommage à Serge Kouchmi qui a beaucoup travaillé sur les éclipses de soleil. Moi je l'ai connu un peu puisqu'il travaillait ici très longtemps et moi aussi, et chaque fois que je le croisais je lui disais bon alors la prochaine éclipse c'est pour quand, alors il allait un peu partout avec Jean Mouette ici présent d'ailleurs observer des éclipses aux quatre coins de la planète et rapporter des résultats intéressants et des images magnifiques. Merci Pierre.
Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais, en commençant, remercier l'Institut d'astrophysique, particulièrement Guillaume Hébrard, Jean Mouette et Florence Duret, pour m'avoir invité ce soir. Ça aurait été extraordinaire d'avoir la présence de Serge Koutchmi. Il nous a quittés quelques semaines avant que paraisse notre livre, donc l'histoire de Flou est antérieure et non pas postérieure, qui est paru fin juin. Nous avions tout préparé ensemble depuis un an et bon, ce que je vais vous dire a beaucoup été préparé avec lui. Mais plus encore, je remercie Jean-Claude Vial d'avoir accepté de partager cette séance parce que je n'ai pas fait carrière dans l'étude du soleil. Il y a 50 ans, presque exactement, nous courions après l'ombre de la lune à bord du Concorde, c'est ce que je vais vous raconter. Mais assez rapidement, après cette date, j'ai quitté l'étude du soleil pour me consacrer à d'autres problèmes. Donc, vous auriez été déçus de n'avoir devant vous que quelqu'un qui avait 50 ans de retard sur la connaissance de la couronne solaire que nous avions voulu étudier, Serge, moi et d'autres, en 1973. Donc, je vais plutôt vous raconter la première partie, à savoir cette éclipse de 73, sur un mode un peu anecdotique. Vous n'y trouverez pas énormément d'astronomie ni de physique. Et c'est Jean-Claude qui, dans une seconde partie plus longue, vous ouvrira à cette actualité de la problématique coronale. Voilà. Alors, l'ombre de la Lune sur la Terre pendant une éclipse qui va se produire en un point de la surface de la Terre se déplace très vite, environ 2000 km/h, ça dépend de la latitude du lieu, ça dépend aussi un petit peu du mouvement de la Lune, de sa distance à la Terre, etc. Mais cette ombre, c'est une tache qui fait 300 km de diamètre, pendant, à l'intérieur de laquelle le Soleil est entièrement caché, entouré d'une pénombre, puisque le diamètre apparent du Soleil n'est pas un point, hein, mais est étendu. Et vous avez à droite la trajectoire de l'éclipse du 30 juin 1973 qui commençait au lever du jour, un peu après le lever du jour en Amérique latine, traversait l'Atlantique, puis la totalité de l'Afrique et finissait dans l'océan Indien. Observer une éclipse sur une partie importante de cette trajectoire à l'aide d'un avion n'était pas une idée nouvelle. Néanmoins, le Concorde, on en parlait beaucoup, puisqu'en 1969, le prototype 001 de l'avion qui était destiné à devenir un appareil commercial, les perspectives de l'époque, on était avant le premier choc pétrolier de 1973, étaient pour l'industriel qui le fabriquait, l'aérospatial, ancêtre d'Airbus Industrie, d'en vendre 1500. Avec une concurrence aiguisée entre un prototype aux États-Unis qui a été rapidement abandonné, le SST, Supersonic Transport, et un prototype soviétique qui s'est écrasé au Bourget quelques semaines avant notre voyage astral. Donc, je connaissais évidemment cette actualité du Concorde et la comparaison de la carte de la vitesse et des capacités de l'avion donnait évidemment très envie de l'utiliser pour observer l'éclipse. Alors, ce n'était pas, disais-je, le premier vol en avion. De fait, la première observation d'une éclipse, qui n'était pas un but scientifique, mais simplement être au-dessus des nuages, a été datée de l'éclipse d'avril 1912, au-dessus de Paris. Vous avez ici une reconstitution de l'avion voisin décollant au voisinage de la Tour Eiffel et du Champ de Mars, hein, et photographiant l'éclipse Voilà, la photographie n'a pas été conservée. Donc, le pilote est mort dans la Somme pendant la guerre de 14, mais c'était la première historique de l'observation d'une éclipse à bord d'un avion. Ensuite, il y en a eu d'autres. En 1955, Raymond Michard, un grand astronome solaire qui est devenu directeur de l'Observatoire de Paris dans les années 70, a équipé un avion militaire, un Nord 4501, pour observer l'éclipse qui se déroulait au-dessus de l'Indochine. Là, l'idée était intéressante, elle a d'ailleurs été reprise après par un Britannique, c'était d'observer sans hublot, donc être au-dessus de l'atmosphère, ce n'est pas un avion qui vole très haut, le Nord, hein, mais ne pas avoir de hublot, et la photographie, qui est le seul document dont on dispose aujourd'hui, vous montre une trappe, un trou percé dans l'avion, de façon à ne pas avoir d'effet parasite d'une fenêtre, comme malheureusement nous l'aurons sur le Concorde. Ensuite, on a eu toute une série d'expéditions d'éclipses. Il faut se rappeler peut-être qu'il y a eu un traité au début des années 80 de réduction des armements nucléaires et surtout d'interdiction des explosions nucléaires test dans, au sol. Et donc ce traité a été plus ou moins respecté, mais un des résultats, c'est qu'il a libérer les avions de l'US Air Force qui étaient utilisés jusque-là à faire le tour de l'Union soviétique et à détecter les ondes de choc acoustiques produites par les explosions de manière à avoir une connaissance précise des explosions. Deux de ces avions ont été consacrés à la science et en particulier à l'astronomie, et l'un d'entre eux n'a pas manqué pratiquement une seule éclipse solaire en faisant du très bon travail. Vous avez ici une image de l'Américain Don Liebenberg, que nous avons invité beaucoup plus tard à bord du Concorde. J'ai pris là une de ces images prises en 1970. Par ailleurs, l'observation de la couronne était possible hors éclipse, seulement la couronne proche, la partie que vous voyez qui était la plus brillante, très proche de la chromosphère, hors éclipse, avec l'utilisation d'un coronographe, un instrument inventé par Bernard Liot, que vous voyez ici. Voilà, que vous voyez ici à droite, observant le soleil au pic du midi avec son coronographe, et une image en bas qui est un film magnifique qui est paru en 1957, que j'ai vu au lycée. C'est un film qui m'a extraordinairement séduit d'ailleurs, et dans lequel on voit l'activité solaire immédiatement au-dessus de la surface, hors éclipse, une éclipse artificielle. Éclipse artificielle qu'un autre astronome de l'Observatoire de Paris, Audouin Dollfus, à gauche, a voulu observer avec un coronographe à disque externe, c'est-à-dire en masquant le soleil, mais loin de l'instrument qui reçoit la lumière et qui forme l'image. Et ce disque externe a une longue histoire qui va nous accompagner aussi aujourd'hui. Voilà, donc observation pendant les éclipses en avion et observation hors éclipse. Alors, en 1972, mettant à profit les réflexions sur la disponibilité éventuelle de Concorde, mettant aussi à profit le fait qu'à partir de 1971, notre équipe à l'Observatoire de Paris avait mis en place la construction d'un télescope embarqué à bord d'un avion, une caravelle, de façon à pouvoir accéder aux émissions infrarouges, qui étaient à l'époque très mal connues, des étoiles et du milieu interstellaire. Donc ce n'était pas du tout de la physique solaire, j'ai évoqué ce changement de direction tout à l'heure. Mais nous avions une certaine expertise dans l'utilisation astronomique d'instruments embarqués sur avion, et donc il était assez naturel d'essayer d'obtenir le Concorde. Rêve évidemment complètement fou, que j'ai concrétisé en demandant un rendez-vous à André Turcat, le chef des essais en vol de Concorde, qu'il m'a accordé gentiment en m'invitant à déjeuner à Toulouse. La nappe était en papier, je lui ai dessiné la trajectoire que vous avez vue, la vitesse de l'avion, et je lui ai dit, si on fait ça, on aura 80 minutes de totalité, c'est-à-dire 11 fois plus que les 7 minutes maximales que le mouvement combiné de la Lune et de la Terre permettent d'obtenir en un point fixe à la surface de la Terre. Et ce sera quelque chose qui nous permettra de faire un travail scientifique. Turcas s'est enthousiasmé pour le projet. Il a réussi à en convaincre assez rapidement le PDG de l'aérospatiale. De mon côté, je suis allé fort de cet accord de principe voir Pierre Aigrin, qui était pas encore ministre, mais en charge de la recherche française auprès du Premier ministre. Et on a obtenu un accord de principe pour lancer une pré-étude. À ce moment-là, le concours de quelques partenaires ingénieurs et techniciens devenait absolument indispensable. Et c'est grâce à Roger Bonnet, qui est là ce soir, que le concours d'un ingénieur extraordinaire, Alain Soufflot, a pu être obtenu. Vous verrez sa photographie dans un instant. Donc, on a constitué une petite équipe et on nous a dit simplement on pourra vous donner une réponse définitive qu'au mois de février. Alors, le mois de février, on était en mai 1972. Il nous restait donc, entre février et le 30 juin, il nous restait quelques poignées de semaines pour aménager l'avion, construire l'instrument, le tester, faire un vol d'essai ou deux, et puis être prêt pour voler. C'était donc extrêmement tendu. Mais ça s'est révélé possible. Évidemment, la première étape, qui était une étape assez audacieuse, était de percer l'avion, car le 30 juin, le soleil était pratiquement au zénith. On est à l'été, au solstice d'été, on est sur le tropique en Mauritanie ou au Tchad. Donc le soleil est pratiquement au zénith, or les hublots sont horizontaux, évidemment, il faut percer le toit de l'avion. Et on n'allait pas faire toute cette opération pour une seule équipe, celle de l'Observatoire de Paris. Donc tout naturellement, deux équipes ont été construites, celle de Serge Koutchmi, qui lui avait déjà deux sites au sol qui étaient prévus, l'un en Mauritanie, l'autre au Tchad. Donc ça explique pourquoi il n'a pas volé avec nous. C'est un de ses collègues, Jean Bégaud, qui travaillait ici, à l'Institut d'astrophysique, qui a mis en œuvre l'expérience de l'Institut d'astrophysique. Et puis nous avons fait appel à une équipe britannique, à une équipe américaine, le Don Liebenberg, qui avait une grande expérience et qui en particulier nous a fourni tous les éléments informatiques qui permettaient d'ajuster au mieux la trajectoire de l'avion. Et nous avons également invité un spécialiste de l'atmosphère, britannique également, qui observait l'impact de l'obscurité brutale sur la désexcitation des molécules de la stratosphère. La stratosphère était assez mal connue à l'époque. Cette transformation, techniquement, demandait de grandes précautions. Il ne s'agissait pas de faire des trous qui n'étaient pas résistants, d'avoir des hublots qui n'étaient pas résistants. La peau de l'avion à Mach 2 est portée à 120 degrés. Il y avait toute une série de processus de sécurité. Et un des tests, il y en a eu beaucoup, mais c'est que le bureau d'études voulait être absolument certain que la structure de l'avion n'avait pas été mise en cause par le percement des trous de hublot. Donc on a simplement gonflé l'avion à l'air comprimé, après avoir mis des jauges de contrainte sur le pourtour des hublots, pour vérifier qu'il n'y avait aucune contrainte qui dépassait les limites de la résistance du pourtour de l'avion. Et à gauche, vous avez l'image du hublot de l'expérience que nous avions mise au point et pour laquelle nous avions invité une autre équipe américaine, un de mes amis, grand physicien solaire, Donald Hall, qui travaillait en Arizona à l'observatoire de Kitt Peak. Donc j'ai énuméré les participants et il y avait à peine un siège à bord pour chacun de nous, puisque c'était un avion d'essai qui emportait essentiellement des enregistreurs et du matériel électronique, mais qui n'était pas fait pour transporter des passagers. Néanmoins, tout s'est bien passé. Et s'agissant de science, je ne vais pas vous détailler les cinq expériences, finalement, qui étaient à bord. S'agissant de science, nous avions choisi une question qui n'était pas du tout résolue à l'époque, à savoir la nature de la couronne F. Il y a deux couronnes, Jean-Claude Vial vous l'expliquera plus en détail tout à l'heure, une couronne de plasma qui est portée à très haute température, environ 1 000 000 degrés, et mêlée à ce plasma, qui est très peu dense, donc le chauffage des deux phases du gaz ne se produit pas, des poussières microscopiques dont l'origine était encore incertaine à l'époque, et microscopique, ça veut dire un dixième de micromètre, mais qui sont chauffés par le Soleil à une température de l'ordre de quelques centaines de Kelvin, entre 100 et puis leur vaporisation à 1000 Kelvin. Ça dépend évidemment de leur distance au Soleil. Et le problème que nous essayions de comprendre, sinon de résoudre, était de voir jusqu'à quelle distance du Soleil ces poussières pouvaient encore exister. Alors, il y avait des calculs, des simulations, il y avait une mesure antérieure, et notre estimation était que c'était entre 4 et 5 fois le rayon du Soleil, au-dessus de la surface du Soleil, 4 ou 5 fois, que ces poussières devaient apparaître. Donc nous avions conçu une expérience pour mesurer l'hypothétique rayonnement infrarouge de ces poussières. Vous avez ici deux photographies de la couronne F. Quand on s'éloigne du Soleil, c'est la lumière solaire diffusée par les poussières qui domine très largement sur l'émission du plasma, responsable au contraire de l'émission au voisinage immédiat de la couronne. Et vous avez à gauche une belle image de la lumière zodiacale, cette diffusion par une couronne F très étendue, bien au-delà de 10, 20, 30 rayons solaires, qui a une forme allongée dans le plan de l'écliptique. Et puis à droite, une très belle photographie faite également pendant une éclipse. Et le graphe qui est au centre montre l'inversion de la proportion de lumière émise par les deux types de couronnes, K et F, suivant la distance au Soleil. À courte distance, vous voyez que c'est K qui domine, et à grande distance, c'est F qui domine. Voilà. Donc, l'avion a été percé, les instruments sont installés à bord, et nous faisons un vol de répétition en décollant de Toulouse et en vérifiant le comportement mécanique, électrique, les enregistrements, etc. Dans ce vol de répétition, j'ai eu un problème, c'est que la plume de l'enregistreur papier est tombée en panne. Alors, pour les plus jeunes qui sont dans les laboratoires, utiliser un enregistreur papier qui déroulait du papier, puis avec une plume, alors on vérifiait qu'il y avait de l'encre, et puis on avait l'enregistrement du signal électrique. Voilà, les choses ont bien changé depuis. Donc vous avez ici une vue à l'atterrissage avec André Turca, sous l'avion, lors du vol de répétition quelques jours avant l'éclipse. Et puis l'intérieur de l'avion, j'ai mis deux images ici, celle de l'Institut d'astrophysique, donc piloté par Jean Bégaud, qui tient un instrument qui est gyrostabilisé, mais qui vit directement au travers d'un des hublots que vous avez vu. Et à droite, l'instrument de l'Observatoire de Paris et de Kitt Peak Observatory, avec l'ingénieur qui nous avait beaucoup aidé, qui est mort maintenant, Charles Darpentini, qui travaillait au CNRS. Alors, c'était une grosse expérience comparée à celle de gauche, à cause en particulier de la nécessité de travailler avec des récepteurs refroidis à l'hélium liquide, donc à très basse température, indispensable pour avoir la sensibilité nécessaire au rayonnement infrarouge. Et puis, tout l'équipage et les scientifiques sont rassemblés au pied de l'avion, ici, après l'atterrissage. Alors, 30 juin 1973, l'avion décolle de La Palmas, aux Canaries, pour être au plus près, à rendez-vous avec l'ombre de la Lune sur la Terre, en un point situé au-dessus de la Mauritanie. Et nous avions donné à l'équipage des contraintes assez fortes, qui étaient que nous devions être au point de rendez-vous à plus ou moins 7 secondes, donc avec une tolérance de 15 secondes de temps, et à plus ou moins 2 km. On n'avait pas évidemment de GPS à l'époque, donc c'est entièrement une navigation sur les centrales à inertie. Et vous avez ici l'arrivée au point de rendez-vous avec à gauche l'intérieur de l'avion, c'est un avion d'essai, je répète, donc l'ingénieur de vol, Henri Perrier, qui a été un des concepteurs de Concorde et un ingénieur extraordinaire dont la fin de la vie a été très assombrie par les procès qui ont suivi le crash de Gonesse, du Concorde d'Air France, et un homme qui a fait l'admiration des deux parties au procès, puisqu'il a eu un non-lieu et que lorsqu'il s'est levé, il a été applaudi par l'ensemble de la salle. Mais ça a beaucoup assombri la fin de sa vie. Enfin, assombri ici, vous avez la cabine qui est assombrie, puisque l'avion vole déjà dans l'ombre. Vous avez la vue par les hublots, c'est assez exceptionnel cette image, dans la mesure où on est dans l'ombre, mais l'horizon, évidemment, à 100 ou 200 km, est éclairé. Et on voit de même la stratosphère avec la lumière blanche issue de la basse stratosphère. Il y a beaucoup de sable, de vent de sable en Afrique. Et en plus haut, bleu, c'est la diffusion du ciel bleu. Voilà, l'avion a été au rendez-vous à la seconde près et au nautique près, c'est-à-dire 1800 mètres. Donc c'est une performance de navigation dont 30 ans après, André Turcat, dans ses livres, était encore très fier. Donc c'était parfaitement réussi. L'avion a suivi l'ombre avec une trajectoire qui était un arc de grand cercle, une orthodromie, donc qui n'imposait aucun virage, qui était particulièrement favorable. Donc il allait toucher la bande sud de la totalité, puis remonter vers le nord, et l'ombre le rattrapait finalement, et le dépassait, en particulier à cause de vents contraires qui limitaient la durée du vol, la durée de l'obscurité à 74 minutes, alors qu'on avait 86, les vents avaient été plus favorables, mais 74 c'était très bien. Et il restait juste assez de carburant pour aller se poser à Fort-Lamy, N'Djamena aujourd'hui, la capitale du Tchad, et être accueilli, comme vous le voyez ici, par une foule en liesse. Alors c'était un atterrissage réussi et une promenade dans la ville assez curieuse, puisqu'il y avait eu un coup d'État le matin même. Mais le coup d'État avait échoué. Et évidemment, les conversations allaient bon train sur le rapport entre l'échec du coup d'État et une éclipse totale de soleil. Voilà. Alors, je ne vais pas du tout m'étendre, je l'ai dit, sur les résultats. Je montre en haut à gauche le film qui a été tourné par Serge Kouchmi, plus exactement par son collaborateur. Vous voyez un ensemble d'images de la couronne. Et un tel ensemble d'images pendant 80 minutes n'avait jamais été obtenu. Donc l'étude de la propagation des ondes et des hypothèses qui existaient à l'époque sur le chauffage de la couronne à partir de ces images a été extrêmement intéressante. Et nous avons pu, de notre côté, confirmer l'existence de poussière qui est restée une longue controverse après ce vol et dont peut-être Jean-Claude Vial dira quelques mots sur nos connaissances aujourd'hui de la couronne F. Mais je vous ai montré l'image qui est en dessous, que je ne connaissais pas et dont Serge Kouchmi m'a signalé l'existence à l'occasion de notre livre, qui est tout à fait extraordinaire, car quelques mois avant le vol d'Eclipse, la NASA avait lancé un laboratoire habité, laboratoire qui s'appelait Skylab et qui faisait le tour de la Terre en orbite basse, comme tous les lancements de l'époque. Et dans ce laboratoire, il y avait des hommes. Et il se trouvait que ce laboratoire croisait dans son orbite la trajectoire de l'ombre. Pas exactement, c'est-à-dire pas la totalité, mais la pénombre. Donc, les astronautes ne sont pas privés de photographier, et vous avez le résultat de la photographie avec un coronographe, puisque le Soleil n'est pas totalement éclipsé, donc il masque le Soleil, mais on voit très bien les jets coronaux. la partie gauche inférieure, c'est ce qui tient le masque, hein. Et vous voyez la Lune qui s'approche du Soleil. Alors c'est la Lune la plus nouvelle qu'on peut imaginer avant une éclipse, puisqu'elle est pratiquement tangente au bord solaire. Et si on regarde la photographie, c'est pas très facile à voir, mais vous voyez déjà ici que le disque de la Lune n'est pas aussi noir que le disque du Soleil. Évidemment, c'est le clair de Terre. La Lune est pleinement éclairée par c'est la pleine Terre pour cette face de la Lune. Voilà. Et puis nous avons appris après, aussi très longtemps après, ce n'est pas le cas de Skylab qui était connu, qu'un avion de l'US Air Force, équipé pour l'étude du Soleil, avait lui également survolé le Tchad, à la fin, Niger et Tchad, à la fin du vol, et nous avait photographiés. Et la photographie que vous voyez, il y a à la fois l'éclipse, alors c'est la fin, on commence à voir le troisième contact, et puis le Concorde, l'avion devait voler à quelques 5 ou 6 000 mètres, donc largement en dessous de nous, nous étions à 17 000 mètres dans la stratosphère. Donc voilà. Alors il y a eu une histoire curieuse que je ne vais pas vous raconter en détail, parce que bien que le cœur de l'histoire se soit trouvé dans cette maison, je ne vous la raconte pas en détail parce qu'elle a fait l'objet d'une émission de France Inter il y a quelques jours sous le titre « Concorde, l'éclipse et l'OVNI » dans l'émission « Affaires sensibles ». En dépouillant ce cliché, Jean Bégaud a vu sur ce cliché un point lumineux en haut, hein, et ce point lumineux n'était pas un artefact. Serge et Jean ont fait beaucoup de vérifications. Il y avait bien dans l'image, ce que vous voyez en bas à droite, un phénomène lumineux. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il y avait beaucoup d'activités à l'époque sur les ovnis. Tous les soirs, France Inter faisait une chronique d'un journaliste qui s'appelait Jean-Claude Bourret, qui racontait toutes sortes de choses étranges que les scientifiques étaient bien incapables d'expliquer, disait-il. Et immédiatement, la presse, la radio, les journaux, l'étranger, etc., s'est emparé de cet OVNI que Concorde aurait vu, qui était peut-être un avion espion soviétique qui surveillait l'éclipse, jusqu'à ce que Serge Kouchmi, ayant fait une analyse extrêmement soignée, publie un démenti montrant qu'il s'agissait, et là ça devient intéressant, d'un météorite de la famille des bêta-taurides. La nuit, on voit les étoiles filantes, mais le jour, on ne les voit pas. Mais ça ne prouve pas, évidemment, qu'il n'y ait pas d'étoiles filantes en plein jour. Et à l'époque, on ne savait pas les observer, sauf les Britanniques, qui, experts en radar, avaient mis au point des systèmes de surveillance radar qui voyaient les trajectoires ionisées de ces météorites dans l'atmosphère. Or, ces météorites diurnes, comme on les appelait, et en particulier les bêta-taurides, étaient connus. Il se trouve qu'à l'heure de l'éclipse, la Terre croisait l'essaim des bêta-taurides. Donc, c'était l'attribution de ce phénomène à un bêta-tauride était tout à fait intéressant. Alors, je vais conclure sur deux images. Les premières, c'est la Couronnef telle qu'on a pu l'observer depuis, et surtout l'injection de poussière dans le voisinage immédiat du Soleil par des comètes qui se désintègrent. Dans la figure à droite, là, vous avez deux comètes, la comète Neowise, que beaucoup d'entre vous ont certainement vue pendant la Covid en 2020, et puis une comète qui est passée à 0,2 rayons solaires, c'est-à-dire rasant la surface du Soleil, la comète Voljoy. Évidemment, dans ces circonstances, les comètes, et on sait maintenant que c'est par plusieurs milliers qu'elles injectent de la poussière dans le voisinage solaire. Donc on peut dire que l'origine des poussières qui nous intriguaient il y a 50 ans est bien établie aujourd'hui. Et je vais conclure sur l'avenir de la coronographie, non pas pour le Soleil, mais pour les exoplanètes. Voilà une mission qui est à l'étude au Jet Propulsion Laboratory aux États-Unis, qui s'appelle ABEX, hein, et dont le but est de détecter les planètes de petite masse ressemblant à la Terre situées autour d'une autre étoile, donc des exotères, comme on les appelle. Et pour ça, il faut masquer, elles sont très peu brillantes, puisqu'elles réfléchissent avec une surface de petite taille la lumière de leur étoile, il faut donc masquer la lumière de l'étoile. On peut faire ça avec un coronographe externe solidaire comme celui de Dwendolfus de l'instrument ou celui de Skylab, mais on peut aussi le faire en mettant le masque très loin du télescope, de manière à s'assurer du nombre. Et en faisant deux dispositifs placés dans l'espace, le télescope avec sa batterie de solaire et tous ses dispositifs de photographie, d'une part, et le masque, situé dans le cas de cette mission, à 70 000 km du télescope, donc naviguant de conserve, hein, et non pas attaché, évidemment. Alors, le masque, il faut le concevoir. Vous avez un masque qui fait une cinquantaine de mètres de diamètre, qui a des pétales très jolis parce que ça réduit la figure de diffraction de ce masque. Et à droite, vous avez le plan focal dans lequel on élimine la lumière de l'étoile. Ah, je ne vais pas commenter ça en détail, mais suffisamment pour qu'une simulation, en haut à droite, de la présence d'une exotère autour d'une étoile de... Il s'appelle ici Beta Canes Venaticis, les chiens de chasse, hein, avec une orbite de l'ordre de quelques dizaines d'unités astronomiques. Voilà. Alors, c'est une mission extraordinairement ambitieuse, mais qui est à l'étude aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de dire qu'un des responsables de cette étude, c'est quelqu'un que nous avons bien connu, puisque c'est un Français qui s'appelle Bertrand Ménesson, qui était. Peut-être que Florence, tu t'en souviens, je ne sais pas. Ça correspond peut-être à cette époque-là, et c'est lui. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là dans l'évocation rapide. Elle est plus longue dans le livre que nous avons écrit avec Serge. Serge tenait beaucoup à ce que toute cette information soit transmise, en particulier aux jeunes. Donc, nous sommes vraiment rejoints sur cette ambition de parler de la couronne solaire et des moyens de l'observer à la jeunesse. Avant que Jean-Claude Vial prenne la parole, nous avons un interview de Serge qu'il a tourné à l'occasion de ce cinquantenaire de l'éclipse, quelques semaines avant qu'il ne nous quitte. Et de ce long interview qui est en ligne sur le site du Musée de l'Air et de l'Espace, Jean Mouette a extrait quelques minutes émouvantes.
En ce qui concerne l'étude de la couronne solaire, j'avais proposé avec des collègues soviétiques de l'université de Kiev, qui était où un groupe travaillait avec, vraiment très tout à fait, ils étaient tout à fait à la pointe des observations de la couronne solaire à l'occasion des éclipses. On avait proposé de répéter, de refaire une expérience au sol qui, un peu, qu'on peut penser être en compétition avec l'expérience à bord de Concorde, mais pas du tout, puisqu'on ne faisait que des mesures ponctuelles, mais à partir de différentes cibles. C'est pour ça que l'expérience s'appelle multisite. Et nous avions un avantage fantastique, nous avions mis à l'époque au point une méthode d'observation qui permettait de voir les structures de la couronne beaucoup mieux que tout ce qu'on faisait d'habitude. D'habitude, on faisait des images avec un énorme instrument de jusqu'à 3 mètres de focale, même 10 mètres de focale sur des plaques photographiques pour essayer d'étaler l'image pour voir le mieux possible, plus facilement, peut-être les structures de la couronne solaire. Parce que c'était ça l'objectif, c'est de voir ces structures, qui, comme je vous l'ai dit, sont des structures magnétiques. Ça représente vraiment l'effet du champ magnétique. Mais ça, c'était difficile. Les appareils sont très, très grands, etc. Nous avions mis au point, à l'Institut d'astrophysique de Paris, un filtre. Avec un filtre, on pouvait compenser, parce que la couronne est beaucoup plus brillante au bord qu'à l'extérieur, donc on compensait ce gradient-là avec un filtre qu'on appelait filtre neutre radial, qu'on mettait près du foyer. Alors bon, il y avait toute une technologie un petit peu sensible, où il fallait une manière d'appliquer le filtre, d'utiliser le film. On utilisait aussi des films, on n'utilisait plus des plaques, comme à l'époque les soviétiques utilisaient encore des plaques. Kodak sortait des plans films, et donc on a été les premiers à utiliser ces plans films, ces grands films de format A4, avec un filtre neutre radial qui faisait 150 mm de diamètre. Et la fabrication de ce filtre neutre radial était vraiment très particulière. Il n'y avait qu'une boîte française qui savait faire ça, qui était très contente d'ailleurs de travailler pour nous à l'époque. Donc on avait passé un accord, parce qu'à l'époque, pour collaborer ou coopérer avec l'Union soviétique, ça se passait par des voies diplomatiques, on avait des accords, des protocoles qui étaient signés, etc. On échangeait des composants. Eux, qui avaient déjà effectué ce genre d'expérience, avaient plusieurs objectifs, plusieurs appareils qui permettaient de faire l'image. C'est amusant peut-être de signaler que ces objectifs, c'était des objectifs Zeiss qui avaient été récupérés par l'armée rouge comme compensation, après la Deuxième Guerre mondiale, et ils les avaient ramenés en Union soviétique. Ces objectifs, ils en avaient plusieurs à leur disposition, et on a échangé. Donc moi, je donnais des filtres, et eux me donnaient un objectif. Alors il fallait construire le télescope, il fallait construire le sidérostat, etc. Mais c'était les composants critiques, essentiels, pour la première fois, faire des observations durant une éclipse de la couronne solaire avec rigoureusement le même instrument. Ça, c'était absolument fondamental pour pouvoir comparer. Parce qu'il y avait eu, bien sûr, il y a eu avant, les Américains, même les Européens, faisaient des comparaisons entre des observations faites à différents endroits. Ils essayaient. Mais on était toujours limité quand on voulait regarder de près les choses. Ben, on s'apercevait que les paramètres n'étaient pas les mêmes et ça posait des problèmes. Là, on était dans des conditions strictement similaires, sauf que l'atmosphère terrestre, elle, c'était pas la même. Et hélas, eux étaient en Mauritanie. Leur expédition, c'est en Mauritanie où il y a eu le plus d'expéditions. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Tchad parce que nous avions une expérience à bord de Concorde et qu'on avait choisi d'aller à un lieu qui était près du lieu d'atterrissage de Concorde. Ça nous a beaucoup aidé. On a bénéficié aussi de la caravelle qui a emporté nos appareils. On avait 12 caisses d'appareillage. Et donc on a été limité par ce phénomène dû à l'atmosphère terrestre. En Mauritanie, ils ont eu une tempête de sable, alors que nous, on a eu un ciel propre, et la comparaison a montré des limites. On a répété ces expériences-là avec les Américains, cette fois-ci avec les Américains, en 91, fameuse éclipse de Hawaï et Mexique. Et là, ça a marché un petit peu mieux, et ça nous a permis d'ailleurs de montrer la couronne à 3 dimensions, en prenant en ligne de compte la rotation rigide. À cause de la carapace magnétique, la couronne est en rotation quasiment rigide. Et comme on a observé à 1h30 d'intervalle, on a vu la couronne sous un angle légèrement différent et on a pu mettre en évidence, par effet stéréoscopique, la structure à trois dimensions. Donc on a quand même des résultats, évidemment, mais ça vous montre une des limites des observations d'éclipses au sol. On est hélas limité par les conditions météorologiques. D'où l'intérêt d'observer en avion.
Bonsoir, merci Florence, merci Guillaume, merci Jean pour cette invitation et merci Pierre aussi. Alors, j'espère que, oui, ça marche. J'espère que tu as parlé de 50 ans de retard en ce qui concerne la physique solaire, Pierre. J'espère que ça sera moins de 50 ans en ce qui me concerne en tout cas. Bon, je travaillais relativement assez peu sur la couronne solaire, je dois avouer, mais un petit peu quand même et pratiquement uniquement avec Serge. Alors ça, c'est quelques rappels. Hein. La couronne solaire a été découverte à l'occasion d'éclipses. On a l'éclipse de 1842. On doit voir, ça marche, oui. Ça, c'est par Arago et ici par Bouvard à Digne. Et ce n'est qu'un siècle plus tard qu'on a compris, caractérisé, disons, cette couronne grâce à l'identification de rayons très dépouillés. Les observateurs avaient observé la raie rouge, c'est pas très bon, oui, la raie rouge à 6374 angstrom, la raie verte à 5303 angstrom. Et c'est un physicien atomiste, Edlen, qui, donc, un siècle plus tard, a montré que ces raies étaient en fait des raies interdites, émises par des ions très dépouillés d'électrons, ici le fer 10 et ici le fer 14. Quand on dit le fer 10, il s'agit en fait du fer qui est dépouillé de 9, l'atome est dépouillé de 9 électrons. C'est une notation spectroscopique. Alors, on sait donc aujourd'hui que la température, puisque ces ions sont très dépouillés, que la température est de l'ordre de 1,6 million de degrés, on verra que ça dépend de la structure, etc. Et comme l'a dit Pierre, la densité est très très faible et elle est largement inférieure à 10 puissance 8 par centimètre cube. Ça, c'est quelque part dans la basse couronne, et puis comme on le verra, ça dégringole très rapidement quand on s'éloigne du Soleil. Alors, quand observaient les observateurs d'éclipses, et puis plus tard, donc, à l'aide d'un coronographe, ils ont observé essentiellement l'émission en lumière blanche, la lumière visible, qui résulte de la diffusion par les électrons du rayonnement sous-jacent, le rayonnement qui vient de la photosphère, de la chromosphère, etc. Et ce rayonnement, il est proportionnel à l'intégrale de la densité électronique, puisque ce sont les électrons qui diffusent, sur la ligne de visée. Donc, au fond, l'intensité, c'est la somme des... correspond, est proportionnelle plutôt à la somme des densités tout le long de la ligne de visée. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas évident, ensuite, de revenir, de déterminer les densités à partir de l'intensité qui est mesurée. Alors ici, c'est un cliché obtenu au cours de l'éclipse de 1968 à Yurgamich en Sibérie, un cliché obtenu, travaillé sur lequel Serge a travaillé. C'est son premier article en solo dans Astrophysical Letters, hein, n'est-ce pas ? C'est pas un petit journal, en 1969. Et ça, donc à gauche, l'observation, disons, brute, et puis à droite, le type d'informations qu'en dérivait Serge, qui cherchait avant tout les structures, les régions de changement de gradient d'intensité, était très fort, etc. Donc les structures, bien, ça, on y reviendra, ce sont ce qu'on appelle des streamers, ce sont des structures allongées, là, que Serge d'ailleurs lui-même a proposé de traduire en G-coronaux, enfin, il a beaucoup insisté là-dessus, et puis on voit aussi la nature du travail qu'il a fait, puisqu'il a superposé des observations en lumière sur le disque qui était obtenu probablement, peut-être pas forcément simultanément, mais enfin, obtenu au sol également. Alors, si on va pouvoir passer, à partir toujours dans ce même travail, il a fait évidemment un travail quantitatif, et il a fait des coupes polaires. Hein. Je ne veux pas dire par là que c'était au pôle du Soleil, c'est simplement les coupes au sens mathématique du terme. Donc, et ceci en fonction de la distance. On s'éloigne du Soleil quand on monte. Alors, on ne le voit pas très bien ici, mais il a l'un des streamers, qu'il appelait J0, il a fait un travail très, très détaillé sur chacune des structures, c'est un article assez affolant. Et il a, sur ce streamer, il a trouvé des bords très brillants. Et il a commencé à interpréter ces bords brillants en termes de feuillets, au fond, des surfaces en termes de surface émettrice, on y reviendra, et surface, disons, magnétique, et c'est ce qu'il appelle dans son interview la carapace magnétique de la couronne. Je reviens tout petit peu, et je n'y reviendrai pas. On y reviendra plus définitivement, disons. Il a beaucoup travaillé en spectroscopie, mais je parlais tout à l'heure donc des émissions de ces raies très dépouillées, de ces ions très dépouillés. L'éclipse 73 du Concorde a été observée donc au Tchad par Serge, et on voit là, j'ai voulu montrer ici cette raie, le fer 14, donc la fameuse raie verte, qui est obtenu avec une résolution exceptionnelle, qui est riche d'informations en termes de température de formation et surtout de turbulence dans la couronne en fonction de l'altitude. Alors, il a fait beaucoup plus tard à l'aide des détecteurs modernes, bien sûr, et à partir d'observations faites dans l'Idaho, à l'éclipse de 2017, là, il a obtenu sur une gamme de longueur d'onde qui va de 5150 à 5900, centrée toujours autour de notre raie verte, là, où elle doit être ici, la raie verte, probablement, j'ai du mal à voilà, là. Et bien, donc, il y a une multitude de raies. Quand on monte en altitude, si j'ose dire, verticalement, on observe des structures différentes. Il doit y avoir par là le vert et le jaune, ça doit être des trous coronaux, etc. Et certaines des raies apparaissent mieux que d'autres selon la. Il y a une raie du fer 10, par exemple, ça c'est. Ouais, etc. Alors, ce qu'il a fait là-dedans, c'est qu'ils ont identifié de nouvelles raies. Enfin, ces raies ne sont pas vraiment nouvelles, mais l'identification est nouvelle. Et en particulier, une raie de l'argon 10 qui a fait beaucoup. Qui a fait l'objet de beaucoup d'études, et je ne peux pas aller plus loin. Donc ça, c'est la spectroscopie. On revient un tout petit peu en arrière sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire la séparation entre la couronne K voulant dire continuum, donc la couronne très ionisée, très chaude, comme on l'a vu, 1 à 2 millions de degrés, et puis la couronne F, donc des micrograins solides, des silicates, je crois, avant tout, hein, qui diffusent la lumière photosphérique et chromosphérique. Et comme l'a dit Pierre, ces régions-là, cette couronne F, est à température plus basse, inférieure à 1000 degrés. Alors, je reprends ce graphe-là, et je l'ai montré Pierre déjà, si j'arrive à gauche. À gauche, l'échelle des ordonnées, c'est le logarithme de la brillance qui est ramené à la brillance sur le disque. C'est en lumière blanche, je ne connais pas exactement là. C'est une figure qui est la figure 7.3 du bouquin de Pierre et Oui, c'est la figure 7.3, je ne sais plus, c'est la figure 7.3, je me suis trompé, hein, c'est la figure du bouquin, 7.3 du bouquin, Lena Kouchmi. Et sur cette figure, donc, c'est l'intensité, qui varie de façon, comment on dit, dramatique. La couronne K est en pointillé, et puis la couronne F est en je ne sais quoi, enfin, une espèce de... là, voilà. Alors on voit tout de suite qu'au-dessus de deux ou trois rayons solaires, c'est la couronne F qui va dominer. Et puis plus loin, comme l'a dit Pierre aussi, cette couronne F va se manifester sous la forme d'un nuage zodiacal. Alors, je suis désolé Pierre, mais je ne vais pas parler beaucoup de la couronne F, je suis totalement ignorant là-dessus, et puis je pensais que tu en parlerais plus. Et puis, on va voir, ceci dit, toujours dans cet ouvrage-là, la figure 8.4, c'est une sorte de pas de simulation, mais de restitution de la couronne F avec ses isophotes et puis au centre, le disque solaire. Alors, je pense qu'il faut lire les chapitres concernés dans le bouquin, en sens que le dernier chapitre en particulier, évidemment, cette couronne, ce milieu de grains, etc., est très, très important en ce qui concerne la formation, y compris la formation des planètes, etc. J'avais prévu de montrer le nuage zodiacal. Pierre l'a montré également. C'est une image assez unique dont Serge était très fier. C'est l'expérience PCN qui a été conçue dans cette maison et qui a été installée à bord de la station spatiale soviétique Salyut. Et c'était assez sportif, si je comprends bien, parce qu'il fallait rester pointé quand même, à tant qu'à faire. Le temps de pause, je crois, est de 2 minutes. Et alors, le commandant de bord, la référence, c'était Vénus. Vous voyez le champ d'étoiles, et puis évidemment, alors, le nuage zodiacal qui est ici. Le bord de la Terre à gauche, là. Et puis, une photo assez exceptionnelle des émissions ionosphériques. Serge disait toujours, au lieu de dire l'ionosphère, il disait l'ionosphère. Je n'ai jamais su pourquoi, mais bon, voilà. L'ionosphère. Bon, on n'y reviendra plus, hein, on va se focaliser sur la couronne K, si vous permettez. Et on va voir tout de suite que, on dit la couronne K, il y a plusieurs couronnes, clairement. Ici, nous, à gauche, nous sommes quelque part après le maximum du cycle 23, et donc c'est un soleil encore actif, une couronne encore active, vous voyez, avec beaucoup de ces streamers, là, un peu partout. Et puis, c'est le résultat obtenu en éclipse, hein, 2016. Et ici, l'éclipse de 2010, où clairement, c'est un soleil de minimum d'activité, avec l'évidence d'une structure magnétique bipolaire, et puis, avec les pôles ici, dans lesquels se trouvent où émergent les trous coronaux. Alors, donc, il y a de tout dans la couronne, hein, donc on ne va pas pouvoir faire l'inventaire détaillé, mais on va revenir quand même sur ces streamers, parce que là aussi, Serge a fait un travail assez très fouillé. On a vu tout à l'heure que ce qu'on mesure, c'est l'intensité le long de la ligne de visée. Alors après, si on veut, par exemple, déterminer la densité, il y a tout un travail à faire. Et ça, c'est ce qu'il avait déterminé dans un article de 71, la variation de densité. Je vous attire votre attention sur le fait que c'est à l'échelle logarithmique, en fonction de la distance au bord solaire. Les points de mesure de Serge, ce sont les points les plus élevés dans ce diagramme. Et puis, ça varie selon les structures, enfin, etc. Même chose avec ici la température hydrostatique en fonction de l'altitude. Ce sont les mêmes échelles. Et en fonction, selon les régions à l'intérieur même de ce fameux streamer. Alors là, vous voyez que ça, les valeurs sont de l'ordre de 1 à 2 10 puissance 6 millions de 2 10 puissance 6 K, de 1 à 2 millions de degrés. Et la température hydrostatique, c'est relativement simple à déterminer, c'est-à-dire on suppose le milieu stable et donc on calcule l'échelle de hauteur. Et à partir de cette échelle de hauteur, on dérive directement cette température qui, au fond, n'est pas très loin de la température électronique. Alors, encore deux travaux plutôt sur les streamers. Le premier a été déjà évoqué par Pierre, c'est-à-dire l'éclipse du 11 juillet 91. Serge et un collègue soviétique, russe, Mikhail Molodensky, ont travaillé sur des observations obtenues dans deux postes différents. Alors, Pierre a mentionné le Mexique, il y avait certainement un poste au Mexique, mais il me semble que l'article mentionne une station au Brésil. Bon, à partir de là, on peut essayer de faire de la stéréo, hein, en supposant que la couronne ne varie pas trop au cours du temps, c'est-à-dire... ici, à la mode, si j'ose dire, Kuchmi, on trace les frontières des structures, ces feuillets dont je parlais. Entrée pleine, c'est probablement ce qui était obtenu au CFH, au télescope de 3,60 m à Hawaï. Et puis, en pointillé, ce qui a été obtenu, pour moi, c'est au Brésil, mais bon. Et à partir de là, nos collègues ont calculé, déterminé les écarts de la surface, où la composante radiale du champ magnétique est nulle, avec le plan du ciel. C'est un travail remarquable. Il y aurait beaucoup à dire sur cette éclipse 1991. Utiliser un télescope 3,60 m qui a pas trop, qui vaut mieux éviter de pointer vers le Soleil, ça n'a pas été facile. Il y aurait des tas de choses à raconter là-dessus. C'est une expérience assez extraordinaire. Et avec l'aide quand même du directeur du CFH, M. Guy Monnet. En 1994, c'est toujours la même équipe, enfin Kuchmi, Molodensky et d'autres, ont fait des mesures. Il faut signaler que cette technique-là, peut-être, a été utilisée un siècle avant par M. Herry, qui avait disposé des stations en Norvège et en Suède, qui avait essayé de faire la même chose au niveau observationnel, pas au niveau de théorique, comme l'ont fait Kuchmi et Molodensky. Et ici, donc, encore, cette fois-ci, en lumière polarisée, et donc un travail, encore une fois, sur ces couches, c'est ce que les auteurs appellent les plis, les caustiques. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose sur les... On parlait tout à l'heure, oui, alors on parlait tout. Ce travail, en fait, a continué cette idée plutôt cette idée de carapace magnétique. Qui dit carapace, et en fait, il y a la notion de surface, encore une fois, de feuillet. Et jusqu'à ce qu'il y ait un travail très provocateur fait par une équipe. Du Max Planck et d'autres encore, Canary, etc., Malanushenko, qui, eux, ont décrété que ces structures-là, A, B, C, D, F, ces structures observées dans l'extrême ultraviolet, donc des structures très, très chaudes, considérées par 99,9% des solaires comme étant des boucles coronales, des régions des structures qui rejoignent des polarités opposées, bien sûr, eh bien, ce n'est pas des boucles coronales. Voilà. Ces gens-là ont fait des simulations MHD. On voit, je ne peux pas vous décrire les simulations, c'est horrible. De toute façon, je n'ai pas forcément compris. Mais on voit, si vous voulez, l'effet de On part de ces structures élémentaires dipolaires, on les projette dans l'autre sens et on trouve des boucles. Et la projection, elle est ici. Voilà, ça ressemble, Et ils ont fait des comparaisons avec des observations en faisant varier les modèles, etc. C'est très intéressant. En particulier, ça explique le fait que les sections de ces boucles, je mets des guillemets, est constante avec le long de la boucle, ce qui est un peu paradoxal quand même. On s'attendrait à ce qu'il y ait une certaine expansion et une à l'échelle de hauteur anormale. Et alors, est-ce que ces structures, donc c'est un travail qui date de 2022, est-ce que ça correspond au pli de Kuchmi et Molodensky? Peut-être, c'est assez. Alors, la couronne, on va d'abord regarder, mais très rapidement, d'où vient la matière. Là, ce sont des travaux de Serge avec Filipov et Golub, qui ont regardé ce qui se passait au pôle du Soleil en regardant l'émission en X. Alors, est-ce que ces émissions en X, ces jets en X suffisent à provisionner la matière? C'est pas tout à fait évident. Et puis, il y a aussi alors, ils ont regardé à ce moment-là ce qu'on appelle des plumes polaires à partir d'observations réalisées avec des instruments EUV, encore une fois, travaillant dans l'extrême ultraviolet, sur le satellite SDO. Et la séquence est ici. Ici, vous êtes à relativement basse température. Hein. Le temps se déroule comme dans ce sens-là, autant qu'ils me souviennent. Oui, l'intervalle est de l'ordre de 2 minutes, je crois. Ici, à la colonne du milieu, vous êtes à 1 million de degrés, ou juste un peu moins. Et à gauche, vous êtes à beaucoup plus, à 1,5 million de degrés. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en regardant la séquence temporelle, ces plumes polaires, contrairement à toute attente, s'éjectent d'abord de la matière chaude. Donc, c'est pas mal, ça permet d'approvisionner la couronne. Et là-dedans, en plus, ils ont montré, dans notre travail, que les ondes dont parlait Pierre tout à l'heure, les ondes d'Alven, donc des ondes liées aux variations, au champ magnétique, ces ondes d'Alven pouvaient jouer un rôle important dans l'éjection. Alors, il y a un travail plus récent, là, que je ne commenterai pas, mais qui correspond, qui est un peu dans cet esprit-là, mais avec cette fois-ci, ces gens-là vont carrément de la photosphère jusqu'à la couronne. Alors, je reviens à cette observation, à cette éclipse de 1991. Il y a eu des tas de résultats intéressants. Mais il y avait plusieurs instruments, d'ailleurs, au foyer du télescope de 3,60 m. Il y avait en particulier une caméra vidéo qui observait, grâce à un filtre interférentiel, l'arrêt rouge dont on a parlé déjà. Et le pixel était de l'ordre de 0,15 arcsecondes, ce qui ne dit pas forcément que c'était la résolution. Et vous trouverez cette figure dans le bouquin, Lena Kuchmi. La séquence temporelle, c'est de gauche à droite et puis de haut en bas. La séparation en temps est de l'ordre de 10 secondes. Ici, plus ou moins verticalement, enfin, c'est un G, mais pas au sens de streamer, un G, la matière qui se déplace verticalement. Et puis cette structure bizarroïde, là, qu'on a baptisée, et je vous expliquerai pourquoi plus tard, du nom de plasmoïde. Et elle semble traverser finalement ce G. Sans trop de problèmes, elle le traverse, on le voit bien qu'il y a un effet, mais sans. Alors, les gens ont pensé que c'était une structure magnétique isolée. Cette question avait été adressée par un physicien des plasmas, Miracle Radu, quand il était à l'observatoire de Meudon, pour expliquer des éjections de matière dans les protubérances. Alors, la question, évidemment, c'est donc cette structure magnétique isolée qui peuvent se traverser, au fond, les lignes de champ sans trop de problèmes. Et la question s'y pose, combien se promènent ainsi dans la couronne et puis peuvent éventuellement l'approvisionner. Une des réponses, c'est dans un article de ses collègues, là, à partir des résultats de Solar Orbiter, qui se pose la question donc, de structures magnétiques qui flottent à petite échelle. Il faut avoir une bonne résolution pour voir ça, qui peuvent éventuellement construire la couronne calme. Alors là, je crois que c'était dans le résumé, il faut quand même parler du chauffage de la couronne. Ça fait à peu près 80 ans de recherche là, sur la question. Et bon, il n'y a pas de conclusion encore définitive. Alors, j'ai pris cette table ici dans le livre de Golub Passacqua, La couronne solaire. Et il y a une liste qui est, à mon avis, incomplète, mais enfin de candidats, de mécanismes possibles pour chauffer cette couronne. Des mécanismes du genre ondes acoustiques, par exemple, sur lesquels Evry Schatzman a travaillé et montré que ces ondes acoustiques se transformaient en ondes de choc. Et puis, toujours des ondes ici, mais liées à MHD, ça veut dire magnéto-hydrodynamique, donc qui sont liées à l'existence du champ magnétique. Les ondes d'Alven qu'on a déjà vues, des ondes purement magnétiques, disons. Et puis là, une autre catégorie qu'on a fourrée dans l'étiquette, courant direct, c'est-à-dire l'effet d'ohm, quoi, hein, l'effet d'ohm. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces candidatures donc, sont encore recevables, et, à mon sens. Et au moins en termes de puissance fournie ou de puissance qui peut être fournie. Et j'attire votre attention, j'en dirai pas plus, hein, c'est encore un sujet d'étude très sur le fait que sur la prochaine publication d'un ouvrage dédié justement au chauffage de la couronne par ces deux auteurs, Judge et Johnson. Oh, ben j'avais dit qu'on s'arrêterait là. Non, on ne s'arrête pas là, parce qu'il y a Solar Orbiter aujourd'hui. Et donc, vous avez peut-être entendu parler des feux de camp découverts par les gens qui ont construit les imageurs, les imageurs UV, qui s'appellent donc EUI, et puis un imageur à très haute résolution. Vous avez ici donc le Soleil entier, et puis vous avez le zoom sur cette région, on le retrouve ici, et l'imageur, l'image obtenue par cet instrument à haute résolution, et puis à l'intérieur, on fait encore un zoom, et on regarde ce qui se passe. Et quand on a une cadence de l'ordre de 5 secondes, et pour certains auteurs, à partir d'une analyse en mesure d'émission, enfin, etc., on trouve une température dans ces structures. Alors, ça varie, hein, c'est vraiment comme le mot de feu de camp, ça s'allume, ça s'éteint, et puis ici, là, etc. Pour eux, ces trucs-là chauffent, puisque la température est supérieure à 606 degrés. Et puis, une étude plus récente menée par des jeunes collègues à l'IAS, pour eux, là, ça ne chauffe pas, ça ne chauffe plus. Bon, ce n'est pas possible. Donc, bon, c'est encore, vous voyez que c'est encore en débat. Pour cela, la plupart ont utilisé non seulement les données de Solar Orbiter, mais aussi les données de SDO. Alors, on ne peut pas éviter de parler des éjections de masse coronale qui ont une telle importance. Vous connaissez l'impact sur la Terre, les effets divers et variés. On a découvert des éjections de masse stellaire, l'impact sur les exoplanètes, les discussions sur l'effet de ces éjections de masse coronale sur la correction qu'il faut faire ou qu'il faudrait faire sur la zone d'habitabilité, enfin, etc., etc. Une des questions que les gens se sont posées pendant longtemps, c'était, parce qu'il y a trois composantes dans ces éjections de masse coronale, la matière coronale elle-même ici, ce qu'ils appellent ici le front, et puis la matière protubérantielle qui est beaucoup plus froide au centre, et puis une autre composante qu'on ne voit pas sur un coronographe, qui est l'éruption, le flair, comme on dit. C'est là quand on accélère des particules et on a des émissions très, très, très énergétiques. Donc, les questions qui se posent, c'est, par exemple, d'où vient la matière, qui commence dans ces trois trucs, là, dans ces trois processus, qui déclenche, disons, d'où vient la matière, où va-t-elle, est-ce qu'on retourne au Soleil, est-ce qu'elle est envoyée on envoie dans l'espace interplanétaire, quel est le rôle du champ magnétique. Alors, ce sont des trucs très difficiles parce que l'éjection de masse coronale, on l'observe au bord, et puis, évidemment, on n'a pas de magnétogramme qui fonctionne au bord, à la surface. Et de toute façon, il est toujours difficile de faire la connexion entre ce qui se passe sur la surface et puis le bord. Alors, notre Kouchmi, notre Serge, lui, avec son équipe, a trouvé une solution que je vous expose ici et qui est très, très, très astucieuse. Eh bien, puisqu'on n'a pas de magnétogramme, on va aller voir ce qui se passe une semaine avant. Voilà. Donc, toute la partie gauche, c'est ce qui se passe une semaine avant. Alors, c'est confortable, on a une image, ça doit être H-alpha, oui, c'est ça. Ici, on a un magnétogramme. Sur ce magnétogramme, on peut replacer la protubérance, etc. Puis ici, on a une image dans l'extrême UV et éventuellement, on va chercher des flares. Ce n'est pas le bon moment, mais on aura une idée de la structure chaude de la région active. Et puis, donc à partir de ces éléments, ces auteurs ont calculé la masse totale de la protubérance. Vous verrez que c'est important. Ils ont déterminé le champ magnétique. Ils ont même calculé l'altitude à partir de laquelle, le filament risque est susceptible de s'envoler. Et puis la partie droite, c'est les observations elles-mêmes. En haut, les observations H-alpha pendant l'éjection de masse coronale, obtenues avec le coronographe du pic du Midi qui est piloté par des amateurs. Ce sont les observateurs associés du pic. C'est un travail remarquable. Et puis en bas, plus bas, l'émission s'est obtenue par l'instrument EIT de Soho, à l'époque, qui permet de détecter les éruptions. Alors, ils ont déterminé la masse de la protubérance éruptive grâce à ce coro. Ils ont déterminé la masse de l'éjection de masse coronale grâce au coronographe de LASCO. Et puis, ils ont trouvé que c'était deux fois la masse de la protubérance. Donc, dans la question de l'éjection de masse coronale, d'où vient la masse? Et une des questions qu'ils posent, une de ces suggestions, c'est au fond, on peut résumer ça, l'éjection de masse coronale, au cours de sa propagation, ramasse-t-elle en passant la matière coronale déjà préexistante? C'est une question très intéressante. Alors, on ne peut pas éviter de parler de tous les travaux. On ne peut pas décrire tous les travaux de Serge en termes de coronographie. On peut dire qu'il a utilisé des coronographes un peu de partout, de par le monde. Il a utilisé le coronographe de Kislovodsk, 53 cm, c'est remarquable, mais c'est pour les protubérances, on n'en parlera pas. À Sacramento Peak, où il a resté assez longtemps, il a assez peu travaillé sur les coronographes, mais avec un collègue là-bas, Ray Smart, il a fait des essais, il a fait une grande propagande pour des coronographes à miroir superpoli. Vous devinez l'avantage du coronographe à miroir qui évite les problèmes de chromatisme. Et puis, il a travaillé au pic du Midi, notamment avec les observateurs associés au cours de ces visites qu'il y a cette photo, prise probablement par Jacques Clair-Noëns. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Alors, au niveau des projets, il ne manquait pas d'idées, c'est clair. Alors, des propositions de coraux à miroir, dans le visible, dans l'UV, sur la Lune, dans l'UV, dans la Riemann alpha. Il a travaillé avec Philippe Lamy sur le coronographe C2 de LASCO, sur microsatellite avec le groupe de MIRS. Et puis, plus récemment, il a beaucoup contribué à l'instrument dit ASPIX, qui va probablement voler au printemps 2024, j'espère. Pierre l'a montré tout à l'heure pour les observations non solaires. C'est C'est dans le cadre des vols en formation. Donc, vous avez l'occulteur ici, hein, et puis à 100 ou 150 mètres plus bas, enfin plus loin, le télescope lui-même. Hein. C'est un coronographe à occultation externe. Alors, ça a été évoqué déjà par Pierre, mais peut-être sous un autre nom. Il y a des projets de ce style-là, coronographe, c'est là. Oui. Alors, là, c'est du Serge encore. Cette fois-ci, c'est une proposition de coro à occultation externe avec le LAM et les observateurs associés du Pic du Midi. Alors, Serge a envisagé d'abord de proposer cet instrument ici, c'est un superbe dessin, et puis il avait envisagé de faire des mesures de lumière diffusée au pic. Il a trouvé que c'était trop difficile, et donc il a conçu un dispositif optique qu'il a installé à l'IAP et qu'il a vraiment utilisé à l'IAP. Hein. Et il est là, il y a des morceaux. Hein. Donc, ce n'était pas uniquement du... En résumé, bien, 176 articles de rang A en premier auteur, 500 articles divers, observation d'éclipses, il en a fait au moins 15, mais il prétendait qu'il n'arrivait pas à les compter. Bon, je ne sais pas. Un intérêt constant pour l'instrumentation. Outre la couronne solaire, c'était une passion incroyable pour la physique solaire en général, mais l'astronomie, il a observé Neptune, les comètes, etc. Formation d'étudiants, les collaborations pionnières avec les amateurs, c'était déjà quelqu'un qui savait ce que c'était que la science collaborative, hein, il a mis en action pratiquement depuis son arrivée à l'IAP. Un collègue de compétences partagées absolument sans réserve, donc il n'y avait pas de... sans limite. Et puis, un collègue d'un très grand défectible amitié. Voilà, ben je finis là-dessus. Merci.
Très, très grand merci à vous deux pour ces très belles présentations et cette très belle évocation de tout ce que Serge a pu faire dans sa vie. C'est très impressionnant. J'ai appris des tas de choses parce que voilà, j'avais beau le côtoyer, on n'est pas du tout dans le même domaine et du coup, voilà, on se parle parfois pas assez quand on n'est pas dans le même domaine. On ne va pas pouvoir prendre beaucoup de questions parce qu'il est extrêmement tard. S'il y a quand même une ou deux questions dans la salle, d'abord.
Alors moi, c'est peut-être une question un peu naïve, mais concernant le dispositif où on observe pour détecter des exoplanètes, si j'ai bien compris, avec un télescope et quelque chose pour cacher l'étoile, quel est l'intérêt de mettre le cache aussi loin et pas plus proche du télescope ?
Le problème est toujours, dans un coronographe, d'éliminer la lumière diffractée par le bord du cache, qui est un phénomène propre à la nature même de la lumière, et qui va rendre plus difficile la mesure d'objets très faibles. Donc éliminer cette lumière diffractée est d'autant plus facile que le cache est loin. Et avec l'ambition des exotères, où l'éclat de l'objet recherché est extrêmement faible, eh bien, ça conduit à cette distance considérable. C'est vraiment lié aux propriétés de la diffraction. Et vous avez vu ce cache à pétales dont le dessin est destiné à diminuer encore l'effet de la diffraction par rapport à un bord régulier qui est celui des coronographes qui ont été présentés.
Merci. Une autre question ou commentaire ? Alors, sur YouTube, j'ai noté... Il n'y avait pas énormément de questions, et puis là, je n'ai pas le temps de regarder les questions suivantes, mais je peux quand même en transmettre une ou deux. Pourquoi est-ce que le soleil est plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur? Les taches solaires le démontrent.
Oui. Oui, tout dépend de ce qu'on entend par intérieur, hein, parce que les taches sont quand même à la surface. Donc, là, la question qui se pose, c'est pourquoi. Pourquoi l'existence même de la couronne, d'une certaine façon, effectivement, puisqu'à la surface, le mot surface est un peu pas tout à fait approprié, parce que ce n'est pas une surface solide. Enfin, la température est de l'ordre de 4000 et quelques degrés, il y a même un minimum de température à 4200 degrés, et effectivement, beaucoup plus loin, on a une couronne qui est à 1 million et quelques degrés. Et donc, c'est une question qui intéressait les solaires depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis pratiquement 80 ans. Et l'idée, c'est de trouver le bon mécanisme ou les mécanismes qui expliquent ce chauffage. Hein. Mais évidemment, c'est un peu choquant. On a un corps froid et puis quelque part, plus loin, c'est beaucoup plus chaud. Et donc, parmi ces mécanismes, j'en ai décrit quelques-uns, les ondes acoustiques, etc. Ce n'est pas mentionné dans le tableau de Golub, il y a eu un mécanisme purement radiatif, mis en avant par Roger Querel, pas de la maison, mais de l'Observatoire de Paris, mais ça ne suffit pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Hein. Ça paraît paradoxal, mais en même temps, il faut penser qu'il y a des flots de matière et puis des ondes, etc., etc., qui font que qui ignore le fait que la surface est froide et que et voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, une dernière question qui vient de YouTube. Pourquoi est-ce que la combustion du soleil n'est pas entropique? Il brûle au même rythme depuis des millions d'années, c'est illogique. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Grimace de Jean-Claude Vial.
Le terme brûle est inapproprié pour le soleil. Le soleil n'est pas fait de charbon. On l'a cru beaucoup hein, au XIXe siècle. On ne savait pas d'où venait l'énergie lumineuse du soleil ou des étoiles. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être un combustible. Et en fait, s'il avait été fait avec du charbon ou tout autre matériau combustible, on était très loin de le voir durer aussi longtemps que ce qu'on connaissait alors des temps géologiques. Donc il fallait éliminer cette explication. L'explication de l'énergie du soleil et des étoiles est venue au milieu du XXe siècle comme le résultat d'une fusion nucléaire. Des atomes d'hydrogène se transformaient, comme dans, hélas, une bombe à hydrogène, en atomes d'hélium, puis de carbone, d'azote, ce qui libère de l'énergie, et ce qui en libère à un taux suffisant, où le Soleil transforme chaque jour des millions de tonnes d'hydrogène pour tirer son énergie de la conversion E égale MC2, finalement, l'expression d'Einstein bien connue, et ça lui permet une durée de vie qui est de l'ordre de 8 ou 9 milliards d'années. On n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur qu'une combustion. Donc voilà, il faut parler du soleil comme d'une centrale nucléaire et non pas comme d'un feu qui brûle.
Feu de cheminée, voilà. Bon, eh bien, nous allons nous arrêter là. Donc vous avez les salutations, pour ceux d'entre vous qui les connaissent, de Christian Nietzschelm, Jaime Willinga, Ehsan Tavabi et Henri Bovy. Je connais les deux premiers qui ont fait leur thèse avec Serge. Le livre de Pierre Léna et Serge Kouchmi, Soleil éclipsé, et le livre de Pierre Léna, Une histoire de flou, et un petit livre qui est juste là pour le regarder, enseigner c'est espérer, sont proposés ici si vous souhaitez des dédicaces. Et j'ai oublié quelque chose. Pardon ? Non, ben il n'a pas levé la main. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci.